Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Galère 88.4, votre radio, vous le savez, consacrée à l'actualité, les 8 heures sur les ondes de Galère. On est ravis de vous accueillir et ce, jusqu'à 10 heures. Anthony au micro, accompagné de Richard et de Christian. Je salue évidemment toutes les auditrices et auditeurs de Radio Galère. Et évidemment, je salue l'équipe de la matinale. Bonjour Richard.
Bonjour les auditeurs, on va enfin vous apprendre des nouvelles peut-être intéressantes.
Mais bien sûr, on va vous développer le sommaire juste après d'ailleurs. Bonjour Christian.
Oui, bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Galère, bonjour à l'équipe de la matinale du mercredi. Et c'est sûr que ça va être intéressant Richard, toujours,
exactement.
C'est toujours intéressant avec nous.
Mais on l'espère.
Du moins on l'espère.
On l'espère en tout cas, vous le savez, on est audible par le biais du 88.4 de la bande FM, également audible sur le www.radiogalère.org. Et on vous l'avait annoncé préalablement, on aura régulièrement des dossiers, notamment de la santé. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Lefebvre qui sera avec nous dans une dizaine de minutes. Pendant près d'une demi-heure, le docteur Lefebvre est un cardiologue à la retraite, mais qui a beaucoup de choses intéressantes à nous dire, notamment sur la santé, l'environnement. On va parler des perturbateurs endocriniens, on va parler de pollution de l'air, pollution de l'eau, du Covid.
On ne peut pas l'éviter, bien sûr.
La Covid et les campagnes de vaccination.
COVID, oui.
Et on parlera surtout également d'ASEF, cette association qui œuvre pour l'environnement. Il en était le porte-parole, il est un membre actif de cette association et c'est un vrai coup de cœur qu'on a pour cette asso.
C'est le cas de dire avec un cardiologue.
Exactement,
que c'est un coup
c'est
de
pour
cœur.
Ça que, tout à fait, mais tu as bien ciblé. Et donc, ça sera le dossier 8h10, 8h40, 8h45, 9h25, dossier éducation nationale. Monsieur Jean, professeur d'anglais au collège Chappe, nous parlera de l'éducation nationale, nous parlera de son collège, des dysfonctionnements, des problèmes de salaire, de recrutement, de la Covid, de la crise sanitaire, des moyens humains. Il y aura beaucoup de choses à dire. Et puis on finira, vous en avez l'habitude, pendant une parenthèse artistique, culturelle, avec Lou Colombani, qui est la fondatrice du pôle de production à Marseille. On parlera des pratiques émergentes du Festival international, on parlera de l'ADN artistique, la culture est en sommeil, mais elle est toujours là et elle va renaître prochainement, donc il ne faut pas l'oublier.
Elle n'est pas dans le coma, quoi.
Exactement, elle n'est pas dans le coma, tu fais bien de l'évoquer.
Et ça devrait faire partie des bonnes nouvelles à venir.
Exactement, Richard. 04 91 08 28 10, vous en avez l'habitude, aussi bien pour réagir avec nous, pour aussi poser des questions au docteur Lefebvre dans 7 à 8 minutes, vous êtes les bienvenus. Mais si on démarre avec la fin de la trêve hivernale, repoussée au 1er juin 2021, voilà une bonne nouvelle en tout cas pour certains. Vous savez que la trêve hivernale normalement a lieu du 15 novembre au 15 mars, elle a été repoussée de 2 mois et demi, alors qu'une vague de froid a débuté, vous le savez, mardi sur le nord de la France. Alors il faut dire que pour l'instant, nous, on n'est pas concernés dans le sud.
Loin de là, hein, c'est
loin
plutôt
de
doux
là,
ici. Hein.
Il fait très doux ce matin, mais que malgré tout, vous savez, Météo France a placé 23 départements en alerte orange météo, notamment par rapport à la neige et au verglas. Et comme en 2020, Emmanuel Wargon, ne pas confondre avec Emmanuel Macron, a reporté la fin de la trêve hivernale à cause, vous le savez, de la pandémie du Covid-19, Christian.
Oui, la trêve hivernale, on rappelle pour les auditeurs et auditrices que c'est la période où finalement on peut expulser les gens, c'est-à-dire que pendant toute cette trêve hivernale, bon, même si on ne paye pas son loyer, si on a des difficultés, ben,
on est protégé par cette loi.
Et là, du coup, ben, dès que c'est la fin de la trêve hivernale, ben, on peut être mis à la rue, donc c'est bien de l'avoir prolongé parce que, comme tu l'as dit, le froid est toujours là et ça se dure au niveau du nord de la France et ça permet aussi aux gens de souffler parce que finalement tout le monde a subi les conséquences de cette pandémie et beaucoup ont souffert au niveau socialement, économiquement, donc il y aura beaucoup de loyers malheureusement qui risquent d'être impayés.
Richard,
ça fait partie des bonnes nouvelles où on voit que pendant des périodes difficiles comme actuellement, bien bon, on repousse de 2 mois et demi, ce qui est vraiment un grand soulagement pour beaucoup de familles et voilà, c'est une bonne nouvelle de plus ce matin.
Très bien, on est parti sur les bonnes nouvelles, je crois, Richard, c'est ça, hein ?
C'est ça.
Alors, on va parler un petit peu aussi on va parler de l'école tout à l'heure avec le collège Chappe, mais là, avec un professeur d'anglais, je crois, mais on va parler des cantines. Alors, il y a du nouveau dans les cantines, des nouvelles mesures sont prises, Richard.
Oui, il y a des nouvelles mesures qui sont prises, bon, au niveau des espacements, au niveau des rotations, mais on voit bien que c'est quelque chose qui est sur papier très bien, qui est très difficile à mettre en place, malheureusement. Mais voilà, ça fait partie aussi des choses où on veut améliorer. On parlera peut-être après des tests salivaires qui vont se mettre en place, je pense, dès la rentrée et qui vont faciliter, parce que le test salivaire est quand même pour les enfants notamment plus facile à subir.
Même pour les adultes, d'ailleurs, parce
même
que
notre,
il n'est pas très agréable, celui
c'est vrai.
Que je suis dans les narines.
Et dont le résultat est pratiquement immédiat. Donc là encore, on voit que c'est encore une bonne nouvelle d'avoir une arme de plus.
Oui, mais si ces mesures sont prises aussi, par contre, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais on s'aperçoit aussi que finalement, les enfants peuvent être aussi des porteurs et être contaminants. Je pense que c'est ça aussi qui est en train d'être réalisé. Et du coup, ces mesures aussi sont peut-être plus drastiques et par rapport à ce qui se passait avant. Donc ça, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais ça peut être aussi un peu plus inquiétant. C'est pour ça qu'il y a des mesures un peu plus rigoureuses qui sont prises au niveau des écoles.
C'est vrai.
Mais avec
vrai,
certains masques aussi qui se doivent être aussi adaptés.
Adaptés aussi.
Voilà aussi. Donc on voit que là aussi, c'est peut-être pas si bon que ça.
C'est vrai. Et malgré tout, on voit une réactivité plus forte qu'avant, parce qu'on connaît mieux la maladie et les choses sont faites beaucoup plus rapidement. Mais c'est vrai que tous ces variants, c'est quand même inquiétant.
Exactement, on passe un petit peu rapidement, on parle à SOS Méditerranée qu'on reçoit souvent sur nos antennes. Eh ben, ils font du très bon travail, le bateau, on se rappelle qu'il est parti de Marseille, et ils ont encore secouru, je crois que c'est plus de 422 survivants qui ont été secourus par SOS Méditerranée, qui vont finalement arriver à pouvoir être débarqués sur un pont, je crois que c'est en Sicile. Donc là aussi c'est une bonne nouvelle, ils font un énorme travail, mais on se rappelle qu'ils sont les seuls
voilà,
à ce moment
les
sur Méditerranée.
Les autres bateaux sont toujours bloqués pour vérification et il est grand temps que eux aussi puissent se mettre en route pour aider l'ensemble des migrants qui traversent dans des conditions épouvantables.
Qui se noient surtout, c'est ça, qui se noient par centaines dans notre Méditerranée.
Voilà.
Voilà. Toujours sur SOS Méditerranée, on rappelle que Marseille, notre bonne ville de Marseille, s'est engagée auprès de SOS Méditerranée, Richard. Dis-nous un petit mot là-dessus.
Ben, oui, notre maire a décidé de prendre part.
Benoît Payan, on le rappelle.
Benoît Payan, oui.
Parce qu'on a changé en cours de route.
C'est ça. Et donc, il prend part et il suit la tradition marseillaise d'accueil. Donc, on pense que c'est une très bonne chose. Et pour l'instant, c'est pas encore arrivé sur Marseille. Hein. Mais bon, la porte est ouverte et bravo.
Voilà, c'est une plateforme de soutien SOS Méditerranée qui s'ouvre sur Marseille. Je crois qu'il y a aussi une trentaine de collectivités en France qui ont fait aussi cette même démarche. Donc on voit que Marseille s'inscrit dans cette voie vertueuse de l'aide et du secours. Et on rappelle aussi que Marseille a également attribué une subvention de 30 000 euros à SOS Méditerranée pour 2020 et 2021 et voté son adhésion donc à cette association. Donc on voit que la ville de Marseille a pris un... fait énormément pour SOS Méditerranée et donne tout ce qu'il peut pour donner son appui à cette association qui fait un travail formidable, on le rappelle.
Et c'est bien sûr, je le rappelle, dans la tradition marseillaise d'accueil. Donc Marseille est une ville qui a toujours accueilli l'ensemble de l'immigration du monde.
C'est une ville d'émigrés.
C'est
une ville d'émigrés, Marseille. Bien sûr, fondée par des immigrés d'ailleurs.
Tu fais bien de l'évoquer. On a Nicolas qui nous salue. Salut les galériens. Bon journal à vous. Voilà. On nous dit également ravi que vous fassiez des éclairages sur la santé. C'est vrai que ça fait désormais quelques temps qu'on reçoit régulièrement des médecins.
On va se spécialiser, Anthony. Hein, c'est ça.
Je sais pas si on va se spécialiser, mais en tout cas, on a un spécialiste aujourd'hui. Avec nous avons le docteur Lefebvre qui était déjà venu à l'époque évidemment sur les ondes de Radio Galère pour nous parler de l'association ACEF. Le docteur Lefebvre est un docteur qui était cardiologue, il est à la retraite, il a œuvré pendant près de 40 ans à l'hôpital Saint-Joseph, à la clinique Saint-Joseph. Il est avec nous ce matin pour nous parler de ACEF, mais également de la Covid-19. Bonjour docteur Lefebvre, bienvenue sur les ondes de Radio Galère.
Oui, bonjour aux auditeurs.
Merci d'être avec nous, réactif, dynamique. Vous étiez venu l'année dernière déjà pour nous parler d'ACEF. On va évoquer un petit peu ce que représente cette association. Et vous, en tant que spécialiste, je le rappelle, vous êtes cardiologue, vous étiez cardiologue.
On est toujours cardiologue.
Exactement, on est toujours toujours cardiologue.
C'est, dans la médecine, on reste toujours...
Je suis complètement d'accord avec ça. Pendant près de 40 ans, ça c'est quand même extraordinaire, au sein de la clinique Saint-Joseph. Donc je trouve que le parcours est...
De l'hôpital.
Est quand même...
Hôpital Saint-Joseph.
Hôpital Saint-Joseph, vous faites bien de le dire. Vous avez raison et vous y tenez. Vous avez raison, docteur. Voilà, près de 40 ans. Vous êtes donc en parallèle, vous avez été porte-parole d'ASEF, hein, une association qui parle d'environnement, qui parle de pollution, qui lutte contre les perturbateurs endocriniens. Donc on va évidemment avec vous évoquer tous ces sujets. Mais d'abord, docteur, parlez-nous de cette association, de votre association, qui est pour nous un vrai coup de cœur. On l'avait reçu l'année dernière et évidemment, on estime que les auditeurs doivent être sensibles à ces luttes que mènent les professionnels de santé, mais pas que, parce qu'on a des bénévoles, des sympathisants qui œuvrent en tout cas pour cette association, docteur.
Voilà, ben c'est une association qui a été fondée en 2008 par les docteurs Souvet et Patrice Halimi, et qui regroupe des professionnels de santé. C'est très important, hein, ça n'est pas du tout limité aux médecins. Hein, tous les professionnels de santé, ils sont les bienvenus, que ce soit les médecins, les infirmières, les, en particulier aussi les sages-femmes, les pharmaciennes, les, enfin tout, les kinés, etc.
Oui, hein, et on rappelle, voilà. ASEF, Association Santé Environnement France.
Voilà, alors c'est Santé Environnement France, en fait ça regroupe des associations plus régionale, hein, l'association Santé Environnement Provence qui est basée à Aix, comme
tout
vous disiez, et puis on a des
là.
Correspondants dans toutes les régions, le docteur Reiss, le docteur Bourdrel en Alsace, le docteur Ménat à Toulouse, enfin on a des correspondants comme ça et qui interviennent quand on le juge nécessaire, quand il y a des choses à dire. Enfin,
ouais, tout à fait.
Dire,
ben, voilà. On a besoin de vous écouter. On rappelle qu'ASEF, je vous invite auditeurs, vous tapez ASEF, ASEF-ASO.fr. Vous avez un site qui est extrêmement bien fait, où voilà, ça vous parle des différentes thématiques sur la pollution, sur les perturbateurs endocriniens, sur la prévention sanitaire environnementale qui est enfin reconnue comme priorité du 21e siècle. Et il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes, docteur, et qui, à mon sens, sont peu connues peut-être de l'opinion publique, et qu'il faille justement pouvoir sensibiliser et susciter leur curiosité.
Voilà, oui, ben c'est une association qui a pour but de sensibiliser, de vulgariser, alors à tous les niveaux, hein, je veux dire, s'adresse d'abord aussi aux professionnels de santé, hein, en faisant des formations, des conférences, en faisant des interviews de grands spécialistes, par exemple le professeur Fénichel à Nice sur les perturbateurs endocriniens, etc., enfin bon, et de sensibilisation et de vulgarisation pour les professionnels de santé, mais aussi pour le grand public, hein, puisqu'on a des actions aussi au niveau des mutuelles, on édite des petits livrets, des guides, des petits guides.
Oui, y viendra, le mini-guide Covid-19,
voilà.
Intéressant.
Covid-19, mais aussi pour le bio-bébé, pour la femme enceinte, pour la pollution de l'air, pour les perturbateurs endocriniens, etc. Enfin, on essaie de traiter un peu tous les sujets.
Vous êtes dans la prévention, en quelque sorte, c'est ça ?
C'est la prévention, ah oui, la prévention.
Et voilà, c'est ce qui...
Par la sensibilisation.
Voilà, c'est très important, voilà. La prévention, parce qu'on parle beaucoup du curatif, mais la prévention, on en parle très peu.
Absolument, absolument, voilà.
Alors, c'est extrêmement intéressant. Alors, justement, on a évoqué notamment plusieurs guides, dont celui de la Covid-19. On va parler Covid-19 avec vous, docteur, quelques minutes, et puis on reviendra sur les axes principaux et prioritaires que défend ASEF, Association Santé Environnement France, pour parler notamment des perturbateurs endocriniens, pollution et autres. Mais tout de suite, docteur, on ne peut pas l'occulter. On avait reçu la semaine dernière le docteur Debois, qu'on salue d'ailleurs, qui est peut-être à l'écoute, pour nous parler, alors il est pédiatre, mais on a parlé évidemment de la Covid-19, des campagnes de vaccination. On voudrait avoir déjà un peu votre avis, vous en tant que spécialiste de la Covid-19. J'étais lundi, pour la petite histoire, avec un oncologue qui lui aussi, évidemment, connaît très bien le dossier. Et on a toujours quand même, docteur, vous me dites si je me trompe, ce sentiment, d'incertitude dans les semaines et les mois à venir.
C'est-à-dire, c'est une maladie nouvelle. Hein, c'est déjà assez extraordinaire qu'on ait progressé autant en si peu de temps, mais il reste que c'est un virus qu'on ne connaissait pas et dont on ne connaît pas encore toutes les propriétés. Et donc,
quand on vous parle d'une grippe accélérée ou une grippe forte, vous estimez que c'est erroné quand on dit que la Covid, c'est une grippe accélérée.
C'est pas forcément erroné, hein, ça y ressemble. C'est la même famille, c'est un virus comme pour la grippe.
C'est la même famille, c'est ça.
C'est un peu la même famille. Donc, alors c'est sûr que ça a l'air d'être un peu plus fort, mais il faut se rappeler quand même qu'il y a des gens tous les ans qui meurent de la grippe, hein, par des complications respiratoires en particulier. Donc, c'est un peu la même famille. Bon, ça semble plus fort, effectivement, encore que la majorité des formes soient asymptomatiques ou peu symptomatiques, hein, finalement.
Est-ce qu'on peut parler alors de moyens préventifs, justement, pour éviter la Covid-19, puisque vous êtes dans la prévention? Parce qu'on parle très peu de... Enfin, il y a les gestes barrières, bien entendu, voilà. Il y a le masque, etc. Mais au niveau de la santé, de ce qu'on peut consommer ou pas consommer, d'autres, est-ce qu'il y a des choses aussi à faire? Ben, des conseils, pouvez-vous nous donner, puisque pour nos auditeurs, auditrices.
Les conseils, c'est essentiellement les gestes barrières pour la prévention. Après, il n'y a pas... C'est une maladie infectieuse. Hein, c'est une maladie contagieuse.
Mais on sait bien que, par exemple, les enfants, avec leur système immunitaire qui est en pleine forme, ils n'ont aucun problème par rapport à faire des formes graves. Est-ce que nous, on ne peut pas aussi booster notre système immunitaire, nous en tant qu'adultes, pour résister? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens aussi à ce niveau-là?
Mais pour l'instant, on n'en a pas trouvé qui fasse absolument leur preuve. Hein. Il y a la vitamine D qui a été...
Voilà, on parle beaucoup de la vitamine D, par exemple. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Ben, la vitamine D, bon, disons qu'il n'y a pas eu de preuve absolument formelle. Ça agit sur l'immunité, mais le problème, il faut se rappeler quand même que la vitamine D, si on en prend trop, ça peut être délétère. C'est un médicament.
Il faut la prendre sous ordonnance, en quelque sorte.
Ben, oui, déjà, je veux dire, il faut être prudent. Et puis, c'est pas un traitement. Hein. Ça augmente un peu l'immunité. On ne peut pas dire forcément que ça va vous empêcher d'avoir le... Si vous faites des gestes barrières, en prenant de la vitamine D, ça risque de marcher. Si vous dispensez des gestes barrières...
Il faut tout faire, quoi. Il faut faire ensemble.
Voilà. Hein,
on parle beaucoup actuellement du zinc.
C'est pareil, c'est la même chose. Hein. Le zinc, ça agit aussi un peu sur l'immunité. Mais bon, c'est pas des traitements qui éliminent...
C'est pas curatif, même chose. On parle du préventif.
Oui, parce que
finalement, le système immunitaire, bon, ben, on peut le détruire comme on peut le renforcer. Quand vous parlez de l'environnement, par exemple, il y a beaucoup de choses dans l'environnement qui nous bousillent notre système immunitaire.
Oui, mais vous savez, un médicament qui a un effet... Il a forcément, il peut être aussi un poison, si on en prend trop.
On est bien d'accord.
Et les seuls médicaments qui ne sont absolument pas dangereux, c'est ceux qui n'ont pas d'effet. Hein? Voilà. Donc le problème, c'est de stimuler le système immunitaire, mais pas trop, quoi. Hein, je veux dire.
Ça, c'est quand même extrêmement intéressant ce que vous dites. On a un auditeur, Olivier, je le salue, qui a composé le 04 91 08 28 10, qui était à l'écoute la semaine dernière, puisqu'il m'a dit vous avez évoqué la semaine dernière avec le docteur Debois, donc. J'aimerais que vous posiez la question au docteur Lefebvre aujourd'hui sur l'artémisia. Voilà, donc on n'est pas là non plus pour faire un dossier en soi. Est-ce que vous estimez que l'artémisia peut être quelque chose de... Alors, curatif, je ne sais pas, mais en tout cas, un élément positif?
Pour le traitement du Covid?
Pour le traitement de la Covid.
Ça n'a pas été prouvé, de toute
façon.
On est
d'accord.
Hein, voilà, je veux dire, l'artémisia, il semblerait que ça marche aussi sur le palu, enfin des choses comme ça, mais pour le Covid, ça n'y a pas de... C'est pas un traitement admis par la communauté scientifique, ça c'est sûr.
Voilà, donc
Au niveau des traitements, alors, actuellement, est-ce qu'il y a un espoir, un horizon... rapide ou...
Ben, vous savez, les antiviraux, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de traitements qui agissent sur les virus. Il y en a quand même, hein, puisqu'on voit que pour le HIV, il y a des traitements. Oui. Là, pour l'instant, les traitements antiviraux n'ont pas fait preuve de leur efficacité. Hein. Bon, on a fait beaucoup de bruit sur le remdesivir, voilà. Hein, bon. Après, il y a le problème de l'hydrochloroquine ici à Marseille. Moi, je ne suis pas du tout opposé. Parce
professeur
que,
Raoult,
voilà,
évidemment.
Voilà, professeur Raoult, quelqu'un qui connaît bien... qui est un spécialiste reconnu sur la virologie. Bon, le problème, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'études comme le voudraient les scientifiques.
Et l'OMS.
Et donc,
aussi,
c'est un peu ce qu'on lui reproche, mais je pense qu'il c'est quelqu'un d'extrêmement compétent. Le problème de l'hydrochloroquine, c'est que de toute façon, ça agit à un niveau très précoce.
Voilà, c'est un préventif, du coup, ça.
C'est un préventif ou curatif. Enfin, je veux dire, mais disons que ça n'est pas pour les formes graves, quoi. Hein, ça, c'est sûr, et c'est M. Raoult qui le dit, quoi. Hein,
Tout à fait.
C'est important ce que vous dites. Juste concernant la Covid, les campagnes de vaccination ont démarré. Bon, on n'est pas là pour fustiger à boulet rouge le gouvernement sur le fait que la campagne est lente, qu'elle cible aujourd'hui une partie de la population. On a vu les comparatifs qui ont été faits, notamment par rapport à l'Allemagne ou à l'Italie ou autre. Aujourd'hui, cette vaccination, est-ce que vous estimez, vous en tant que docteur, qu'elle est forcément positive? Et est-ce qu'on est dans les temps pour pouvoir contrer ce virus-là?
Alors là, je suis bien en peine de vous répondre, pour plusieurs raisons.
Vous en demandez beaucoup, là, Anthony.
Ben, c'est-à-dire...
Non, mais c'est le spécialiste. Après, avoir un avis, c'est toujours intéressant.
La première raison, c'est qu'on n'a jamais vu un vaccin se développer aussi vite.
Oui, ça, c'est une première dans l'histoire de l'humanité. C'est entre le saluer.
À un an.
Ça, c'est sûr.
Même pas un an.
Voilà. Donc, bon, les choses qui vont vite, des fois, on voit un peu que pour AstraZeneca, par exemple, oui. Chez les gens âgés, ça pose peut-être plus de problèmes que ce qu'on pensait.
A priori, oui.
Que ce qu'on pensait avant. Ces vaccins ARN messagers, c'est quelque chose de très intéressant et de très nouveau et qui semble avoir beaucoup d'avenir, a priori. C'est très ciblé. Le problème, c'est que le virus, il s'adapte aussi et que, avec les variants qui arrivent, on n'est pas certain que tous les vaccins marchent aussi bien sur ces nouveaux variants. Il risque d'en avoir d'autres encore. Hein,
peut-être qu'il faudra faire comme pour la grippe, chaque fois renouveler le vaccin. C'est
mais
ça.
Très probablement, on va dire. Hein, sur l'avenir de cette pandémie, on ne connaît pas encore ce que ça va devenir et ça peut très bien faire comme la grippe, c'est-à-dire réapparaître un certain peut-être diminuer au fur et à mesure que les gens deviendront un peu immunisés et puis
certainement voilà on va s'immuniser aussi c'est ça aussi
avec des réveils de temps en temps quoi.
Oui, est-ce que vous estimez aussi c'est ce que certains disent qu'on va devoir faire face en tout cas pendant beaucoup d'années au même titre que la grippe mais avec peut-être un peu plus de
maîtrise
de conscience. Richard, pardon.
Un peu plus de maîtrise.
Un peu plus de maîtrise, voilà. Est-ce que, au final, la Covid-19, c'est peut-être une sorte de, comme on l'a dit tout à l'heure, de grippe amplifiée et qu'il faudra peut-être combattre chaque année.
Peut-être.
C'est envisageable.
Tout est envisageable.
D'ailleurs, la grippe a pratiquement disparu à ce moment grâce aux mesures gestes. C'est paradoxal.
Ouais, ça c'est extrêmement paradoxal. 8h23 sur les ondes de Radio Galère, toujours avec le docteur Lefebvre pour parler notamment des sujets liés à la santé et de l'association ACEF, Association Santé Environnement France. On y vient, on a parlé Covid, vaccination. Vous encouragez, en tout cas, je suppose qu'il faut se vacciner si on a des signes avant-coureurs et si on est, entre guillemets, aujourd'hui éligible à la vaccination, puisqu'on a toujours ces problèmes d'âge qui, d'ailleurs, posent certains problèmes, parce qu'évidemment qu'on se doit, pour tous les professionnels de la santé, on a eu les docteurs qui nous disent, nous, toutes les semaines, on se fait vacciner, c'est obligatoire et c'est même peut-être un devoir civique, en tout cas, quand on exerce, hein, ce qui n'est plus votre cas. Est-ce que vous estimez aussi qu'on pourrait peut-être démocratiser davantage la campagne de vaccination et qu'elle puisse être disponible à un panel de personnes plus large, pas uniquement les professionnels ou les personnes âgées?
Mais je crois que le but, c'est de vacciner tout le monde. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de vaccins.
Voilà, c'est ça le problème.
Comment on l'explique?
Il faut le fabriquer. Il faut le fabriquer. Je vous dis, on l'a trouvé en un an. Vous ne fabriquez pas toutes les doses de vaccins.
Vous estimez que cette lenteur, elle est légitime du fait que c'est nouveau et que c'est tout est récent. Donc on ne peut pas en vouloir, en tout cas, peu importe si c'est le gouvernement, mais la lenteur de la vaccination, elle est légitime.
Vous avez un facteur qui est qu'on ne peut pas faire plus vite parce qu'il faut les fabriquer, les vaccins. Après, sur le plan plus politique et tout, il va y avoir qui vacciner en premier.
Ça a été décidé, je crois. C'est personnes les plus fragiles, ce qui est normal.
Voilà, ça a été décidé. Voilà, ça a été décidé comme ça. Je veux dire, c'est un choix tout à fait légitime. Il y a d'autres endroits probablement où d'autres choix ont été faits. Mais enfin, en se basant sur le fait que les formes chez le jeune sont moins graves et sont
même bénignes,
et souvent asymptomatiques. On a préféré
comme pour la grippe d'ailleurs.
Mais si vous voulez, le but, c'est de vacciner tout le monde, hein, ça, c'est sûr.
On est bien d'accord avec ça. Allez, il nous reste un petit quart d'heure avec vous, docteur. On va parler notamment des grandes actions que mène ACEF sur l'environnement, pesticides, mais notamment sur les perturbateurs endocriniens. Alors, pour certains, ce terme-là il vous évoque certainement quelque chose. Oui. Peut-être que vous ignorez un petit peu la définition et les enjeux et les risques des perturbateurs endocriniens. Docteur, parlez-nous des perturbateurs endocriniens et notamment, sans être cocorico, mais sur Marseille, voilà, sur le département des Bouches-du-Rhône du moins.
Les perturbateurs endocriniens, si vous voulez, c'est un sujet d'actualité au niveau de la pollution environnementale. Il faut pas oublier tout le reste, qui est très important, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, les pesticides, si vous voulez, on en reparlera après, mais c'est très important. Non, la particularité des perturbateurs endocriniens, c'est que ils sont arrivés en son étape, on les a découverts et surtout, ils n'obéissent pas aux lois de la toxicologie classique. Et c'est ça qui en fait le problème. C'est-à-dire que il perturbe le système hormonal, il perturbe le fonctionnement de certaines hormones qui sont extrêmement, ces hormones sont extrêmement importantes, en particulier, et c'est une des particularités des perturbateurs endocriniens, ces hormones agissent à différents moments de la vie, plus particulièrement, et en particulier lors de la vie fœtale. Ce sont les hormones qui vont déterminer la croissance du fœtus, en particulier au niveau de ses glandes endocrines et de tout ce à quoi elles servent. Par exemple, les hormones thyroïdiennes, il faut le savoir, elles jouent un rôle fondamental dans le développement neurocérébral du fœtus. Tout le monde se rappelle le crétin des Alpes, c'était par manque d'iode de la mer qu'on avait ces catastrophes, qui n'existent plus, Dieu merci, mais il faut savoir quand même qu'en 10 ans, le QI dans les pays occidentaux européens a diminué de plusieurs points, de 1 à 4 points, on pense qu'à 4
vous
points.
Vous parlez actuellement.
Actuellement.
Ça serait donc dû aux perturbateurs endocriniens, d'après vous ?
Une des raisons invoquées, avec des arguments quand même, en particulier les travaux de Madame Demenex qui est au Muséum d'Histoire Naturelle et qui travaille là-dessus. On peut penser que ça joue un rôle dans ce phénomène. Vous avez tous les perturbateurs endocriniens au niveau des hormones sexuelles, c'est comme ça qu'on s'en est aperçu, de la perturbation endocrinienne, qui font que il y a certains produits qui, à la longue, entraînent des modifications ou
des malformations.
Alors, cette particularité, il y a d'autres particularités, il y a les fenêtres particulières, il y a le fait qu'il y a ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire que ces perturbateurs endocriniens, on en trouve partout, il y en a dans les pesticides, il y a certains pesticides qui ont des propriétés, entre autres, il y a dans l'alimentation, donc dans les cosmétiques,
de partout, c'est ça le problème,
de partout. Voilà. Et donc on y est exposé en permanence
sans le vouloir.
Ouais. Encore que là il y a des choses, il y a des choses dont on pourra parler. On est exposé tout le temps et si vous voulez, ça s'ajoute pas forcément, des fois ça se multiplie. Le fait d'avoir deux perturbateurs endocriniens qui agissent au même endroit vont entraîner une action qui ne sera pas à la somme 1 plus 1, ça fait pas 2, ça fait 6. Il y a d'autres particularités. Le fait qu'on est exposé et on paye les pots cassés très longtemps après. Ouais. Vous avez par exemple un autre exemple qui est un problème de santé publique à la Martinique, à la Guadeloupe, où on a mis dans les champs de bananes de la chlordécone.
C'est un scandale sanitaire d'ailleurs.
Exactement.
Véritable scandale sanitaire.
Voilà, la chlordécone est un pesticide, c'est un insecticide, qui a des propriétés perturbatrices endocriniennes et qui explique pourquoi des années après, puisque c'est arrêté depuis 92.
C'est le cancer de la prostate, je crois.
Voilà, la Martinique et la Guadeloupe sont les endroits du monde où il y a le plus de cancers de la prostate.
Je crois qu'il y en a pour une cinquantaine d'années.
C'est que c'est très persistant. Ça se paye longtemps après. Dans la fumée du tabac, le cadmium en particulier, mais il y a plein de substances dans la fumée du tabac qui sont aussi perturbatrices endocriniennes. Il n'y a pas que dans l'alcool. Il y a des propriétés et ça se paye longtemps après. Donc ça aussi, c'est une des particularités.
On a Nicolas, notre fidèle auditeur, avant de laisser la parole à Richard qui va certainement poser une question. Nicolas nous dit, est-ce que ces facteurs accélèrent le développement de la Covid ? Est-ce qu'on peut trouver un lien avec la Covid sur les perturbateurs
endocriniens. Alors, au niveau de la santé
environnementale.
Au niveau de la santé environnementale, non, pas. On ne peut pas, puisque ça perturbe les hormones, c'est un autre mécanisme.
Après, est-ce que les hormones n'ont pas un effet sur le système immunitaire? Tiens, moi, j'en sais rien, je vous pose la question.
Certainement, là, je ne
sais pas. Donc, il y a peut-être un lien, alors.
Mais il n'est pas prouvé, on va dire. Voilà, il ne faut pas.
Mais bon, c'est la preuve scientifique.
Il faut creuser, quoi.
Dans la santé environnementale, la pollution qui aurait le plus de liens prouvés, on va dire, ou suspectés avec le Covid, c'est la pollution atmosphérique et les poussières. Hein. Il y a des travaux qui ont montré que c'était peut-être pas pour rien que Bergame avait été la ville où il y avait eu le plus de Covid en Italie, puisque c'était une des villes très industrielles, particulièrement polluées.
Très polluée. Marseille est très polluée d'ailleurs aussi, hein. Faut pas l'oublier.
Donc disons qu'il peut y avoir un lien, ça a été suspecté, il y a des travaux qui en parlent, entre la pollution de l'air et la diffusion puisque c'est sur les aérosols que se met le virus, hein, donc forcément...
Exactement. Richard, une question.
Alors, oui, une question. Alors, bon, on voit bien qu'il y a des multiples causes pour tous ces endocriniens. Est-ce que vous, dans vos actions, vous estimez qu'elles prennent de plus en plus d'ampleur? Est-ce que l'impact par rapport au changement commence à venir? Est-ce qu'il vous faut...
Changement climatique aussi, oui.
Par rapport à vos actions, je parle.
Oui, par rapport aux actions, le problème des perturbateurs endocriniens, donc, c'est qu'il y en a partout, et on est en permanence confronté. Nous, notre action, c'est un problème de sensibilisation, que ce soit au niveau des professionnels de santé. On a travaillé avec l'URPS, justement, pour faire des guides pour les médecins pour la perturbation endocrinienne, et ou au niveau des gens. Au niveau des gens, les choses qui sont importantes, c'est que finalement, chacun est citoyen et consommateur. Donc, on essaye de sensibiliser le consommateur à choisir ce qu'il peut choisir, c'est-à-dire l'alimentation, et d'être renseigné surtout. Hein, donc, c'est pour ça qu'on fait ces petits guides, qu'on fait ces réunions.
Quelques conseils, alors, pour nos auditeurs et auditrices, alors, par exemple, de concret, qu'est-ce qu'on doit éviter, par exemple?
Ce qu'on doit éviter, disons déjà, c'est tous les aliments, là, au point de vue alimentation, l'alimentation ultra-transformée est une mauvaise chose. Voilà. Hein, pourquoi? Parce qu'il y a plein d'additifs dedans, et que dans ces additifs, il y en a beaucoup qui sont perturbateurs endocriniens.
Donc, il faut cuisiner, c'est ça?
Donc, plus vous avez une nourriture qui est simple, mieux ça vaut. Attention, il faut savoir quand même que la nature n'est pas forcément, ce qui est naturel n'est pas forcément super, hein, c'est-à-dire que dans le régime vegan aux États-Unis, il y a des problèmes actuellement. On s'aperçoit que les vegans qui nourrissent les nouveau-nés avec du lait de soja, le soja, ben, c'est perturbateur endocrinien, parce dedans il y a une substance qui est perturbateuse endocrinienne.
Ça, c'est extrêmement intéressant,
parce que c'est pas du soja bio, je suppose.
Non, c'est le soja.
Soja lui-même, même s'il est bio, c'est pas
soja,
bon.
Le soja, il y a une substance dedans qui est perturbatrice.
Mais c'est une substance naturelle dans ces cas-là.
Naturelle, c'est pour ça que vous avez des oncologues qui déconseillent à certaines personnes qui ont été opérées du cancer du sein de prendre du soja.
Ah, mais ça, c'est bien de le dire, parce que c'était assez inconnu.
On apprend des choses,
Il y a des substances qui sont... Voilà, et à certaines huiles essentielles, il faut faire un peu attention. Mais la majorité des perturbateurs endocriniens, vous en avez beaucoup dans les additifs et dans les choses qui sont pas forcément utiles.
Alors pourquoi dans les campagnes qu'on peut voir à la télévision par rapport au gouvernement, aux associations, etc., n'y a-t-il pas une prise en compte plus forte de ces éléments qui paraissent simples à supprimer en partie?
Alors, vous savez,
c'est inquiétant, ça.
Alors, le problème, c'est qu'une autre particularité des perturbateurs endocriniens, par exemple, qui n'obéit pas justement, qui fait leur particularité parce que ça obéit pas à la toxicologie classique, c'est que pour les perturbateurs endocriniens, la dose ne fait pas forcément le poison. C'est-à-dire que toutes les lois, en particulier, sont basées sur la toxicologie classique qui fait que la dose fait le poison. Au-dessous d'une certaine dose, vous risquez rien. Au-dessus d'une certaine dose, ça devient dangereux. Hein, c'est la loi
l'équilibre.
C'est Paracelse, à la Renaissance, qui avait dit ça. Hein, c'est la dose qui fait le poison. Hein, voilà. Or, les perturbateurs endocriniens n'obéissent pas à cette loi. C'est-à-dire que peut y avoir des produits qui sont perturbateurs à des doses extrêmement faibles, puisque les hormones agissent à des doses extrêmement faibles. Le problème, c'est que la législation est basée sur la loi de Paracelse, la dose fait le poison. Il y a des doses limites, au-dessous on risque rien. Et qu'il y a des intérêts absolument énormes.
Les intérêts économiques, voilà.
L'industrie chimique. Vous savez, c'est pas pour rien, quand on regarde au niveau européen les freins de la Commission européenne pour reconnaître les perturbateurs endocriniens, un des pays qui a le plus freiné, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, elle a derrière Bayer et BASF. Je veux dire, l'industrie chimique qui produit tous ces... Et donc, il y a des freins économiques, il y a des intérêts économiques qui freinent la reconnaissance et la prise en compte de ces perturbateurs endocriniens. C'est pour ça que c'est important de sensibiliser les gens en tant que consommateurs ou en tant que citoyens. En tant que consommateurs, moi je conseille par exemple, nous on fait des petits guides, il y a des émissions comme ce que vous faites là, il y a des applications qui sortent maintenant.
C'est utile ces applications, alors est-ce qu'on doit les utiliser justement pour déterminer, savoir ce qu'on a dans les produits?
Moi personnellement, si vous voulez, je suis très... en faveur des associations de consommateurs, pour commencer, à condition qu'il n'y ait pas d'intérêt, qu'il ne soit pas soutenu par la grande distribution, bien évidemment, et les applications dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que, je ne veux pas faire de publicité, mais une application qui est développée par une association de consommateurs...
Non, mais là, il faut faire de la publicité. Ça, c'est de la bonne publicité.
Reconnue.
Vas-y.
Vous n'avez que choisir, par exemple. Voilà. A priori, il n'y a pas d'industriels derrière qui le soutiennent. Il n'y a pas de... Et donc, on peut penser que, ils ont intérêt, de toute façon, parce que le jour où ils se loupent... Donc, il y a elle développe des applications, mais il y en a d'autres. On parle de Yuka,
Yuka, c'est Open assez Football. Connu. Voilà,
Yuka, c'est une des plus connues. Moi, je suis assez partisan de ces applications qui permettent aux gens, quand ils achètent, de choisir ce qu'ils achètent en connaissance de cause.
Voilà, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'application sur son portable et ensuite de scanner le code barre du produit et on sait exactement ce qu'il y a dedans, c'est
voilà,
ça
voilà.
C'est assez simple.
Il vous dit s'il y a des choses dangereuses ou pas. Ça, il faut voir suivant l'application. Il y en a des applications. Le problème, c'est qu'il faut se méfier des applications qui sont où derrière vous avez tel distributeur ou tel autre, c'est sûr. Mais je pense que ça, c'est une prise de conscience. Et puis, chacun est citoyen. Citoyen, ça veut dire qu'on prend en compte, quand on vote, ses arguments et pour essayer d'être actif là-dessus,
Choisir le bon candidat, qui irait dans ce sens. Voilà. Ça, c'est une autre histoire, c'est politique.
Mais... Voilà, oui.
Je vous pose une question que je pose régulièrement à un ensemble de personnes. Est-ce que vous pensez que la surpopulation est un handicap contre tous ces méfaits?
La surpopulation, je pense que pour l'instant, c'est pas trop d'actualité, vu que, a priori, nos pays à nous, ils sont en train de se dépeupler, puisque la démographie montre que ça, c'est pas si terrible que ça.
Je parle au niveau mondial.
Au niveau mondial, non, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Qu'on fasse une éducation pour contrôler les naissances, le contrôle des naissances, l'éducation, ça c'est l'éducation. C'est pas pour rien que les pays les plus éduqués, ils ont pas ces problèmes de surpopulation.
Mais aussi des pays qui sont les plus riches aussi, on est dans la misère, les enfants c'est aussi un peu la retraite du pauvre.
Voilà. Mais c'est aussi les pays où l'éducation est la moins dispensée, la moins développée.
C'est lié, la pauvreté, le manque d'éducation, ça va ensemble.
Je pense que l'éducation, c'est fondamental, ne serait-ce que justement pour comprendre tout ce qu'il faut faire. Donc, je pense que si vous voulez, pour l'instant, il y a des problèmes d'environnement avec le réchauffement climatique, la déforestation, qui sont encore plus à prendre en compte que la surpopulation pour l'instant. En sachant que dans ces pays pauvres où on a peur de la surpopulation, c'est l'éducation qui est importante plus que le contrôle de...
Et l'élévation du niveau de vie aussi.
Et l'élévation du niveau de vie, bien entendu.
On voit bien que dès qu'il y a le niveau de vie augmente, les enfants diminuent. C'est corrélé.
Absolument.
Et également l'éducation.
C'est naturel.
De tout, par exemple, ce que vous expliquez, où les gens n'arrivent plus à comprendre.
C'est sûr que si on peut expliquer, si les gens sont renseignés quand ils choisissent, c'est important. S'ils savent pourquoi choisir tel produit, tel produit, tel produit, s'ils sont sensibilisés, On est beaucoup plus efficace.
Là, on est dans la région PACA. On a parlé beaucoup de ce qui se passe autour de la MED, par exemple. Là, c'est certes, peut-être, il y a aussi un scandale sanitaire qui est là-dessous, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de cancers qui se développent autour de cette région. Alors là, vous qui êtes dans l'environnement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un œil là-dessus, puisque vous êtes aussi
Y a
sur Marseille?
Il y a autour de Fos, il y a quand même une étude qui est
il
en
nous
cours.
Reste une petite minute.
Il y a des actions qui sont en cours, qui s'appellent Réponse en particulier sur autour de Fos, pour justement sensibiliser les gens. Non, je crois qu'il faut le prendre en compte. On ne peut pas renvoyer toutes nos industries aux autres. C'est pas possible.
Renvoyer les poisons aux autres, non, il faut les garder.
Voilà. Donc il faut faire avec, il faut que les gens soient renseignés, il faut le prendre en compte, et il faut qu'il y ait un équilibre entre l'économie et la santé. Je vais vous dire, c'est vrai pour le Covid, c'est vrai pour l'environnement, c'est vrai pour tout. À Marseille, il y a le problème du port et des bateaux.
Vous savez que les croisiéristes ont fait le problème des gros bateaux, des croisières.
Des gros bateaux et des fumées, mais vous savez qu'actuellement, quand même, le port est en train d'avoir pris ça en compte. Et il y a de plus en plus de bateaux qui sont à poste, quand ils sont à quai, ils se branchent sur l'électricité, ils ne font plus tourner leur moteur. Et ça, c'est une orientation qui a été donnée, qui est très importante. Et les Marseillais doivent être vigilants pour que ça aille suffisamment vite et que ça aille dans ce sens, ça c'est sûr.
Parfait.
Merci beaucoup,
docteur. C'était un vrai plaisir, riche d'enseignements, avec beaucoup de sagesse et de pertinence. Merci d'avoir
été
avec nous, docteur.
Merci.
C'était un vrai plaisir. On vous laisse le dernier mot de la fin et on invite auditeurs, auditrices à aller sur le site d'ACEF. Notamment, il y a des campagnes de dons. Quand vous voulez faire votre bonne action, il y a des soutiens qui sont précieux et importants. SOS Méditerranée en fait partie. ACEF en fait partie également. Donc, on vous invite à faire des dons à ACEF pour, j'allais dire, le bien de l'humanité. Voilà, un dernier mot, docteur, pour conclure. Merci à vous d'avoir été là.
Merci.
C'était un vrai plaisir. Pause musicale, Maître Gims, jusqu'ici tout va bien. Et puis, Monsieur Jean sera avec nous, professeur d'anglais au Collège Chap, pour parler évidemment des dysfonctionnements de l'éducation nationale. On revient juste après ça.
Le temps qui passe, j'espère. Pourquoi je gagne et puis je perds? Comme un enfant à qui l'on raconte une histoire, je dois le voir. Malgré les hauts, les bas, je sais m'accorder un dernier essai. Je vois la vie me faire un signe, j'ai lutté pour en être digne. Et je crois que tout va bien jusqu'ici. Je fais l'effort, et qu'importe à qui les torts, on finit par tomber d'accord. Parfois j'y vais un peu fort, je me méfie de l'eau qui dort, et si c'était un coup du sort. Malgré les doutes, je prends sur moi. Tu sais les coups, je ne les sens pas. Je me relève, je ne tremble pas. Je vis, je vois, ne t'en fais pas. Et je crois que tout va bien.
Radio Galère 88.4, nous reprenons le cours de notre émission. On écoutait Gims, jusqu'ici tout va bien, on espère que
ça va durer.
que ça va durer, évidemment. On a le plaisir de recevoir ce matin notre professeur d'anglais, monsieur Jean, qui est avec nous sur les ondes du 88.4, on va le saluer.
Bonjour.
Bonjour à vous, monsieur Jean, bienvenue sur les ondes de Radio Galère. Vous êtes professeur d'anglais au collège Chap, dans le 4e, vous êtes syndiqué SNES, et avec vous on va parler pendant... près de 40 minutes, 35 à 40 minutes, on va parler de l'école et évidemment des différents dysfonctionnements. On est toujours en direct avec Christian, avec Richard, Anthony au micro pour vous accompagner. Auditeurs, auditrices, vous en avez l'habitude, venez réagir à l'antenne 04 91 08 28 10. Ou pour ceux qui travaillent avec nous dans le réseau, mon numéro de téléphone, vous m'envoyez vos SMS et on les transmettra à notre professeur du jour. On a régulièrement des professeurs, régulièrement des docteurs. On vient de conclure un dossier avec le docteur Lefebvre où on a parlé Covid, vaccination, perturbateurs endocriniens. Ça fait partie évidemment des thématiques importantes. L'éducation nationale et l'école, c'est précieux et extrêmement important. C'est pour ça qu'on voulait en parler ce matin avec notre professeur d'anglais. Je le remercie en tout cas pour sa réactivité. Alors en plus, c'est vrai qu'il devait être accompagné pour des raisons pour des empêchements légitimes. Il est seul et ça sera pas du tout un problème.
Bah, il est assez grand, il va se débrouiller, je suis sûr.
Oui, au départ, en fait, l'idée c'était que je serais accompagné par des collègues du primaire, hein, puisque moi je suis dans le secondaire en collège, donc je vais surtout parler quand même de ce que je connais.
Parfait.
Après, bon, la situation primaire, je la connais aussi un petit peu parce que j'ai des enfants qui sont scolarisés en primaire, par exemple, et je suis aussi en contact avec pas mal de collègues, donc j'en parlerai aussi un minimum. Mais c'est vrai que ça aurait été bon. Je ferai au mieux avec ce que je sais. Je parlerai avant tout du secondaire parce que c'est quand même là que je travaille.
Exactement. C'est pourquoi on vous a ciblé évidemment, mais il est libre à vous de parler également du primaire si vous le souhaitez. Alors un petit mot, monsieur Jean, j'allais dire docteur, non, pardon, c'était notre invité précédent.
Maître Jean.
Mr. Jean.
Oui, c'est un professeur d'anglais.
Yeah, of course. Du coup, parlez-nous un mot sur le syndicat SNES. C'est vrai que parfois, on a du mal, en tout cas, à distinguer les syndicats. Parlez-nous du syndicat SNES. Vous êtes affilié à ce syndicat. Et puis, les actions qu'elle mène, les luttes prioritaires que mène le syndicat depuis tant d'années.
Oui.
J'imagine que les luttes sont multiples.
D'accord. Donc, SNES, c'est pour Syndicat National d'Enseignement Secondaire. C'est un syndicat qui fait partie de la FSU, la Fédération Syndicale Unitaire, donc qui regroupe pas mal de syndicats du premier et du second degré, du supérieur également. C'est un syndicat qui est majoritaire dans l'éducation nationale, en tout cas pour la partie second degré générale, qui regroupe plusieurs sensibilités différentes. En fait, il arrive aussi à être majoritaire parce que, justement, il a ce côté... il reconnaît un droit de tendance qui fait qu'à l'intérieur du syndicat on a aussi des débats, différentes mouvances, mais globalement c'est un syndicat qui défend à la fois une vision de transformation positive de la société, qui essaye de mettre en avant l'éducation pour la rendre plus émancipatrice, plus soucieuse des droits des citoyens, des futurs citoyens que sont nos élèves, hein, et qui bien sûr aussi se bat pour la reconnaissance du métier d'enseignant dans sa difficulté, qui demande des revalorisations salariales à la hauteur de ce que...
Oui, on va en parler, tout à fait.
On mérite aussi, je pense, et voilà.
En tout cas, non, mais très, très bel éclairage du SNES, et évidemment, majoritaire, en tout cas, c'est un état de fait. C'était important, ce que vous avez dit, c'est qu'à l'intérieur, il y a différentes sensibilités. On n'est pas là pour politiser le débat, c'est pas du tout l'objectif ce matin sur les ondes de galère, mais en effet, c'est ce que nous, on ressent, à travers les différents professeurs qu'on reçoit, c'est que peu importe, entre guillemets, alors évidemment, on suppose qu'on est quand même plutôt axé à gauche, mais vous êtes ouvert aussi avec le centre, avec la droite. En tout cas, il y a certainement des profs qui sont de divers horizons politiques, et ça permet, en soi, c'est absolument pas gênant. Hein,
Non, c'est-à-dire que, bon, après, c'est vrai qu'on fait toujours attention à ne pas trop politiser les choses lorsqu'on parle de syndicat, vous le comprenez, mais c'est vrai aussi que dans la mesure où c'est un syndicat qui est majoritaire et qui est largement reconnu dans la profession, c'est vrai que beaucoup de collègues vont se tourner spontanément vers lui en cas de besoin. Quelle que soit leur sensibilité personnelle.
Il est incontournable, comme on dit, dans l'éducation.
Après, voilà, on reste
il faut le reconnaître.
On reste un secteur de la société qui est encore relativement syndiqué, dans lequel il y a un degré d'adhésion syndicale qui est encore relativement fort comparé à d'autres. Après, il faut être tout à fait honnête, c'est pas non plus ce que ça peut être une époque. Dire aussi qu'on a une politique gouvernementale qui fait en sorte de saper aussi le pouvoir des syndicats.
Oui,
ça, je pourrais en parler également.
Alors, on rentre un peu plus dans le politique. Hein.
C'est une excellente transition.
Je suis venu pour ça à la base, mais si vous voulez en parler, je peux en parler aussi.
On peut en parler quelques minutes. Hein, c'est sûr.
Bien
évidemment, certains disent en tout cas que tout est orchestré là-haut pour que justement on affaiblisse en tout cas et qu'il y ait une sorte de divergence syndicaliste pour réduire un petit peu la force du syndicat. SNES est quand même un syndicat puissant, légitime depuis beaucoup d'années, hein, je pourrais dire peut-être des décennies, voire plus. Aujourd'hui, vous avez ce sentiment-là, vous l'avez évoqué, je trouve ça extrêmement accrocheur, que le gouvernement, mais peut-être, j'ai envie de dire, monsieur Jean, alors vous paraissez jeune d'ailleurs, mais ça fait quand même 20 ans que vous enseignez.
Et oui, voilà, ça a surpris tout le monde.
Exactement, mais ça fait 20 ans que vous enseignez. Donc,
l'éducation qu'on conserve en tout cas, hein. Surtout à Chape, j'ai l'impression.
C'est peut-être autre chose qui conserve, je ne suis pas sûr que l'éducation conserve.
Bon, on va l'interroger après.
Du sport, ça peut conserver.
Il y a les
aussi.
Deux, mais on pourra en parler aussi. Mais je pense honnêtement que bon, c'est quand même un métier que j'aime, hein, je veux dire, je l'ai choisi pour ça. Le fait de travailler avec des jeunes, quand on le fait dans de bonnes conditions, je pense que ça conserve, oui.
Voilà, il faut rester en contact avec les jeunes.
Donc il faut encourager les futurs professeurs, que ce soit professeurs des écoles, du collège ou du lycée, à justement récupérer cette passion, parce qu'il faut le dire aussi, malheureusement, vous attirez moins, le métier d'enseignant attire moins.
C'est un vrai problème.
Et ça, c'est un vrai regret. Moi, j'ai toujours eu, alors je suis un peu plus jeune que monsieur Jean, mais en tout cas, j'ai toujours eu...
Guère plus jeune,
j'ai 36 ans, mais en tout cas, j'ai toujours eu par le passé le référent du professeur et même au sein de notre famille, c'était quelque chose de sérieux, un vrai repère intellectuel, un repère d'autorité.
Le médecin d'ailleurs.
Ouais, exactement.
Oui, exactement. C'est ça, il y avait l'enseignant et le médecin.
Mais je suis complètement d'accord.
Les références de l'époque, d'une certaine époque.
Non, mais tout à fait. Et j'ai l'impression que malheureusement aujourd'hui, comme le métier est dénigré et qu'il n'est pas à sa juste valeur sur le plan financier, aussi avec des problèmes pour en parler, mais pour gérer les effectifs, problèmes de délinquance et autres. Malgré tout, si peut-être on n'aurait pas des surcharges dans les classes, ça permettrait de pouvoir mieux enseigner. Si on valorisait les professeurs, ça permettrait de les encourager à poursuivre au lieu de tomber dans des chutes vertigineuses. Je ne sais pas si on est
C'est intéressant le parallèle que vous faites avec les médecins, parce que vous voyez, c'est vrai que c'était deux métiers qui étaient censés être un petit peu les métiers de confiance vers lesquels les gens se retournaient, auxquels on faisait spontanément, on accordait spontanément sa confiance quand il y avait un problème de santé ou quand les enfants avaient des problèmes à l'école. Bon, on se tournait vers le
psychologue, professeur. Presque d'assistant social parfois d'ailleurs.
Et on lui faisait confiance pour essayer de tirer les enfants vers le haut. Oui. Aujourd'hui, on a vu que la crise sanitaire, par exemple, a beaucoup remis en question l'autorité des médecins. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui se proclament finalement épidémiologistes confirmés, alors qu'ils ont lu deux articles sur Internet. Bon.
On remet en cause aussi bien la médecine que l'éducation. De toute façon, c'est les deux. C'est
pas, on
c'est
remet un tout en cause.
Peut-être
à juste titre, j'en sais rien.
D'un côté, alors je pense que c'est bien d'avoir aussi un esprit critique. Je veux dire, on ne peut pas se plaindre non plus qu'à un moment, les parents aient un regard un petit peu éclairé, réfléchi sur le système scolaire en général, qu'ils aient des solutions à faire.
Qui ne fonctionne pas bien d'ailleurs. Si on voit les résultats au niveau européen ou même international, on voit bien que les classements, par exemple, chaque fois, nous renvoient toujours à des constats effrayants. Parlons pas de l'anglais au niveau de, pour les Français. Il y a l'anglais de Monsieur Macron qui se débrouille pas mal, mais
on a fait des progrès, je pense.
On a fait des progrès quand même, quoi.
En anglais, il me semble.
Bon. Alors moi, j'avais deux petites remarques. Aujourd'hui, vous dites on essaie d'affaiblir le syndicat, beaucoup de gens disent que en France, un des soucis, c'est justement un manque de syndicats.
Ceux qui le disent, à mon avis, ne sont pas ceux qui nous gouvernent.
Je dis
on essaye de l'affaiblir, bon, moi j'ai deux exemples en tête. Concrètement, bon, le Grenelle de l'éducation qui a eu lieu récemment, qui a rassemblé un panel de soi-disant experts, dans lequel on n'avait aucun représentant syndical et pas de professeur de terrain. Bon, ça c'est. De toute façon, les syndicats ont refusé de participer à partir du moment où ils se sont rendus compte que la façon dont c'est organisé n'était pas. Ne pouvait rien déboucher sur quoi que ce soit de légitime. Après, sur le rôle des syndicats, par exemple, ils ont un rôle de co-gestion assez important dans la façon dont sont traités les avancements dans les carrières et les mutations, par exemple.
Surtout dans l'éducation nationale, c'est très important pour les mutations et les carrières. On ne peut pas éviter les syndicats.
Oui, toute la question des mutations, par exemple, des attributions de postes d'année en année, ça change beaucoup. Donc, on a toujours eu, normalement, une gestion paritaire avec des commissions paritaires qui se réunissaient en fin d'année, qui contenaient un nombre conséquent de représentants syndicaux. Souvent des gens habitués à la tâche, qui connaissent bien la partie technique du problème, qui d'ailleurs on s'est rendu compte parfois étaient même plus compétents que les gens dépêchés par le rectorat ou l'IA, parce que c'était pas toujours forcément eux des gens expérimentés.
C'est tout un système de points d'ailleurs, c'est
voilà,
ça.
Voilà, tout un système de points
assez
qui est assez
complexe.
Assez complexe, voilà. Et le fait qu'on ait des représentants des personnels dans ces commissions garantit justement qu'il n'y ait pas de passe-droit, qu'il y ait une vraie égalité, qu'il y ait une transparence la plus grande possible. Et en cas de recours, et ben justement, il y a déjà un travail qui a été fait en amont, et donc les syndicats peuvent se saisir du dossier et le traiter de la façon la plus éclairée possible. Aujourd'hui, ces commissions ont été vidées de leur sens dans la mesure où maintenant c'est géré uniquement par les représentants de l'éducation nationale, mais pas les syndicats. Donc ils ne peuvent intervenir qu'à posteriori en cas de problème.
C'est le rectorat finalement qui décide.
Voilà, c'est des personnels uniquement du rectorat de l'IA qui gère le problème.
Voilà, c'est problématique d'ailleurs.
Donc, je reviens sur le fait qu'aujourd'hui, ce qui manque beaucoup, pas que chez vous, mais particulièrement en l'occurrence ici, c'est que en fait, il faut plus de syndicats pour avoir un rapprochement mutuel sur des tas de sujets.
Bah, plus un syndicat est fort et représentatif, et plus finalement il représente réellement la parole de ceux qui sont sur le terrain, et plus il est légitime, de toute façon, c'est clair.
Donc, tout à l'heure, il y a Samy qui a réagi à 3-4 minutes, je le remercie, 04-91-028-10, et qui nous dit dans tous les cas, c'est pas nouveau, même sous Sarkozy, Hollande, et désormais sous Macron, on essaye de casser la force du syndicat, et il rajoute dans tous les corps de métier, pas uniquement à l'enseignement, mais dans tous les corps de métier, et c'est ce qui est malheureux.
Complètement, je veux dire, c'est quelque chose qu'on constate aussi dans le privé, un syndicat comme la CGT par exemple, qui reste puissant, mais qui a été beaucoup miné, et sur lequel là pour le coup on joue beaucoup avec des divisions sur d'autres syndicats qui sont parfois plus prompts à se ranger derrière les propositions gouvernementales, on va dire.
On est bien d'accord. Quasiment 8h58 sur les ondes de Radio Galère 81.4. On est toujours en direct avec Monsieur Jean, professeur d'anglais au collège Chape. Il nous reste une grosse vingtaine de minutes et on va en profiter. On va parler du recrutement et de la revalorisation financière pour le professeur. Faudrait peut-être, si vous nous le permettez, Monsieur Jean, évoquer les salaires. Alors, on n'est pas là pour parler du vote, mais de manière plus ou moins globale. Et évidemment, vous verrez que ça ne correspond pas du tout aux attentes et pas du tout à la fonction.
Oui, alors les attentes sont importantes parce qu'il faut savoir que nous, en tant que fonctionnaires, on a un petit peu une variable d'ajustement budgétaire. Donc, lorsqu'on a des économies à faire, on les fait un peu sur notre dos. Ouais. Alors, concrètement, ça veut dire que nos salaires, le point d'indice sur lequel est basé notre salaire a été gelé depuis des années.
Ouais. Il est toujours gelé.
Oui.
Bouge pas.
Il ne progresse pas alors qu'il devrait progresser avec l'inflation, puisque forcément le prix de la vie augmente.
Comme tout le monde.
Oui, comme tout le monde.
Exactement.
Le nôtre ne progresse pas. On s'est compensé en partie par l'avancement en échelon progressif avec l'ancienneté ou la notation qui fait que notre salaire augmente,
voilà.
Ou les primes REP effectivement qui peuvent en partie compenser, mais ça reste quand même une perte de pouvoir d'achat insidieuse, progressive, année après année.
Mais ça compte pas pour la retraite aussi, toutes ces primes, c'est ce qu'il faut pas.
Avec la réforme, c'est pas sûr. Je pense que la réforme prend compte des primes. Après, nous, dans l'éducation nationale, on fait pas partie des secteurs de la fonction publique qui sont les plus primés, hein. Par exemple par rapport à ce que peut toucher un policier par exemple, hein, pour donner un autre exemple de fonctionnaire.
Un petit comparatif, monsieur Jean, un professeur qui démarre, un professeur d'anglais qui démarre en 2020, est-ce qu'on peut donner son salaire?
On est un peu au-dessus du SMIC, mais pas beaucoup, quoi.
C'est quand même incroyable. Et souvent, moi, quand j'évoque ça, on m'a dit, oui, un professeur, c'est 2000-2005 qui démarre.
Ah non, absolument pas.
Moi, je peux te dire qu'autour de moi, j'en ai parlé récemment, on m'a dit, ouais, je crois que c'est 2000 et ils finissent à 3000 à peu près à la fin de carrière. Donc, non, absolument non, pas. Vous êtes à, je crois non, que c'est 1004.
On arrive assez. Après, il y a une progression rapide au tout début.
J'en ai parlé récemment, on m'a dit, ouais, je crois que c'est 2000 et ils finissent à 3000 à peu près à la fin de carrière. Donc, absolument pas. Vous êtes à, je crois que c'est 1004.
On arrive assez. Après, il y a une progression rapide au tout début. Donc, on arrive assez rapidement autour de 1008. Mais bon, je veux dire, ça fait pas non plus forcément beaucoup rêver.
1008
pour un bac plus 5. Hein.
Alors, par rapport au salaire européen, par exemple.
Partie des enseignants les plus mal payés d'Europe.
L'Allemagne et l'Angleterre aussi.
Alors, de tête, j'avoue que j'ai pas la question.
L'Allemagne, c'est sûr, et l'Angleterre aussi.
Le Portugal paye ses professeurs mieux que nous.
D'accord. Vous auriez intérêt à faire un Brexit scolaire, alors.
un Brexit scolaire.
Ah, un Brexit scolaire. écoutez, je ne sais pas si l'éducation, si l'Union européenne est en cause. Au contraire, puisque justement, a priori, eux, ils payent plutôt les gens mieux que nous. C'est peut-être, on devrait plutôt là-dessus s'aligner sur nos partenaires européens.
Hein, voilà, c'est l'inverse.
Tout à fait.
Ouais, ça, c'est intéressant. Alors, dites-nous un petit peu le recrutement.
Donc voilà, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est un vrai problème de recrutement déjà. Pour parler un peu argent et budget, on réclame dans l'éducation nationale depuis des années et des années davantage de postes, davantage de personnel pour simplement soulager les conditions de travail de ceux qui sont déjà en poste. On a des classes qui sont généralement très chargées, comme vous le savez.
Ce qui est un vrai problème.
Aujourd'hui, en fait, beaucoup de professeurs, même si la question du salaire revient souvent, beaucoup de professeurs sont encore plus sensibles finalement à leurs conditions de travail. Beaucoup de professeurs savent qu'ils n'ont pas fait ça pour devenir riches de toute façon. Ils acceptent l'idée qu'il y a d'autres compensations, comme une certaine sécurité de l'emploi, comme des vacances, qui sont là aussi, c'est vrai.
Et puis c'est un service public aussi.
Et
voilà,
on a bien conscience
que... C'est un choix de servir le public.
C'est vrai, tout à fait. Donc on ne le fait pas, encore une fois, pour s'enrichir à la base. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que même lorsqu'on ouvre des postes, on n'en ouvre pas assez, mais on en ouvre quand même, on a du mal à les remplir. Il y a des matières dans lesquelles on a de plus en plus de mal à trouver du personnel. Parce que finalement, en fait, les gens sont davantage attirés par notre carrière. Lorsque vous avez notamment des diplômes en sciences, en mathématiques, aujourd'hui, il y a des carrières d'ingénieurs dans le privé, par exemple, qui sont beaucoup plus attractives que ce que vous pouvez avoir dans l'éducation nationale. Donc on a un vrai problème de recrutement des profs de maths, par exemple. Même lorsqu'on ouvre des postes.
On le voit dans les résultats des élèves français, d'ailleurs.
On en a parlé récemment, effectivement. On dit que les résultats des élèves sont mauvais. Alors, je ne vais pas du tout remettre en question mes collègues, mais après, il faut voir aussi... Enfin, je ne suis pas sûr qu'on mette les moyens nécessaires pour ça.
Oui.
De manière générale, un professeur qui commence donc sa carrière commence avec un salaire très faible. Alors, il y a une revalorisation qui a été proposée, qui a été avancée par le ministère récemment, à grand renfort de communication. Elle va effectivement surtout toucher ces jeunes collègues-là. Et bon, c'est toujours bon à prendre, on va pas évidemment, je veux dire...
Ouais, mais c'est une sorte, peut-être, une sorte d'appel, entre guillemets, un argument de séduction, mais qui au final...
Parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment l'un des points sur lesquels ils ont besoin de faire un effort particulier.
Et oui.
Mais après, c'est vrai que ça va toucher finalement, c'est quelque chose qui va être dégressif au fur et à mesure de l'avancée en échelon. Donc les plus jeunes professeurs qui sont à l'échelon 1, 2 ou 3 vont toucher davantage. Au-delà de l'échelon 6 ou 7, vous ne touchez plus rien. Donc moi, par exemple, juste pour vous donner une idée, je suis à l'échelon 10 sur 11 avec 20 ans de carrière.
Donc comment on gravit ces échelons? Est-ce que c'est uniquement de l'expérience? C'est les années qui font que...
C'est une combinaison entre notre notation par les inspecteurs et notre ancienneté. En gros, l'ancienneté joue toujours un rôle, mais si on est bien noté, on progresse un peu plus vite.
Okay.
Après, là aussi, c'est aussi quelque chose qui remet en question. Bon, le système précédent n'était pas forcément parfait, mais on avait une double notation pédagogique et administrative. Maintenant, c'est de plus en plus les chefs d'établissement qui vont décider ça.
Ouais,
ce qui est encore notre problème.
À la tête du client, ça peut se faire peut-être.
C'est beaucoup plus aléatoire, on est d'accord.
Ce que vous nous dites, alors, ça rentre en état de votre salaire, en étant à l'échelon de 10 sur 11, que vous aurez certainement d'ici la vingtaine d'années qui vous reste.
Oui, et puis au-delà, après maintenant, un acquis. Après, par exemple, au-delà de l'échelon 11, après un acquis syndical, ça a été de permettre de continuer à progresser en arrivant à ce qu'on appelle la hors-classe, hein, qui donne ensuite accès à une rémunération supplémentaire. C'est quelque chose qui était avant réservé uniquement à certains professeurs parmi les plus anciens et qui, de fait, mathématiquement, on est obligé d'y venir parce qu'avec l'allongement des carrières, avec le fait que maintenant on n'est plus parti pour 37 ans et demi, mais pour 42, 45 peut-être, voilà, au moment,
50
je veux dire,
ans bientôt.
On ne peut pas non plus se retrouver à plafonner au niveau salaire alors qu'on a.
L'agrégation, quand on parle de l'agrégation justement pour les professeurs, est-ce que, bon, qui est d'ailleurs très peu donné en tout cas, est-ce que ça peut être un argument convaincant pour dire voilà, je sais que j'en avais évoqué avec un professeur, je crois qu'on peut gagner 300 400 euros de plus quand on a
il faut la passer déjà l'agrégation.
Il faut la passer, voilà,
c'est pas donné l'agrégation.
Ah non, justement,
non, bien sûr.
C'est extrêmement difficile, vous confirmez
de là.
Oui, c'est un concours qui est ouvert à tous les personnels mais qui encore une fois est extrêmement difficile. Oui, il y a très peu de postes donc ça peut pas être considéré comme le recours automatique pour tout le monde. Par définition, ça reste un concours réservé à un petit nombre de professeurs.
En démarrant, allez, à 1003-1004, un professeur basique, j'entends sans agrég, il finit à combien à l'aube de la retraite?
À l'aube de la retraite, avec
les 4000 euros que vous avez dit.
On arrive à peu près à 3000, je dirais.
C'est ce que j'allais dire, on double a priori sans salaire, c'est à peu près ça l'idée.
C'est à peu près ça.
Tu parlais des 4000 euros par rapport à M. Bayrou, non, on va pas... On va pas parler de cette polémique de François Bayrou.
Pour vous donner un exemple, alors pour reprendre ce que je disais sur le gel du point d'indice et le fait que je vais pas être revalorisé parce que je fais partie des gens qui sont trop anciens pour ça, si notre point d'indice avait évolué en fonction de l'inflation depuis 10 ans, aujourd'hui je toucherais environ 200 euros de plus par mois que ce que je touche actuellement.
Et 200 euros, ça fait 2400 euros à l'année.
On est bien d'accord.
Et sur 10 ans, ça fait 24 000 euros. Enfin, c'est énorme.
Ok. Et ça, c'est uniquement parce que, en fait, notre salaire est gelé depuis 10 ans.
Et comment on explique, pardon Christian, et après je te laisse la parole, comment on explique ce gel et comment on explique surtout que les syndicats, le corps enseignant, n'ont pas réussi à... Alors, c'est pas de leur faute, mais à faire vaciller le gouvernement, je trouve ça... Parce que si c'était le cas sur d'autres métiers, il y aurait longtemps qu'il y aurait eu du changement.
Mais c'est toute la fonction publique dans ce geste.
Complètement,
il n'y a pas que les enseignants, il faut le rappeler.
Oui, oui, j'entends bien.
Tout à fait. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. L'une de ces raisons, par exemple, c'est que pendant longtemps, je pense que ça a été assez difficile de mobiliser vraiment les professeurs sur la question des salaires. Parce que d'abord, c'est quelque chose d'assez insidieux. Le fait que votre salaire n'augmente, ou votre fiche de paye n'augmente pas, c'est pas aussi, on va dire, c'est pas un choc aussi grand que si elle diminue d'un coup. Donc c'est un petit peu comme la métaphore de la grenouille qu'on met dans l'eau chaude et qu'on fait chauffer petit à petit. Vous la connaissez tous, je pense.
Oui. Donc, on s'en aperçoit pas, quoi.
Voilà, on s'en aperçoit. Voilà,
c'est insidieux,
et donc c'est pas la grosse claque qu'on vous met à un moment qui va vous faire réagir. C'est plus la somme, c'est plus le truc qui va petit à petit vous rattraper, vous grignoter. Pour faire vaciller le gouvernement, il faut que les gens soient mobilisés ensemble. Lorsque les gens donc sont pris justement un petit peu plus en plus à la gorge par le côté par le problème de salaire insuffisant, se mettre en grève, ça a un coût. Donc moi, je sais que j'ai beaucoup de collègues qui me diraient
oui,
je serais pas contre le fait de mettre en grève, mais là, je veux pas ce mois-ci. Et je veux pas aller contre ça, évidemment. Il y a aussi le fait qu'encore une fois, donc pendant longtemps, la question des salaires a été un peu écartée par les collègues parce que pour eux, ce qui comptait avant tout, c'était la question des conditions de travail. Donc, et ce qu'on a quasiment de façon unanime dans la profession, la revendication qui est toujours partagée, c'est on voudrait des classes moins chargées. Donc pour ça, les collègues ont conscience qu'il faut embaucher davantage.
Mais c'était le cas, monsieur Jean, excusez-moi de vous couper, lorsque moi j'étais il y a 20 ans, 25 ans,
oui.
Mais j'entendais mes parents, j'entendais à l'époque c'était la PEP, enfin les syndicats, la PEP et la FCPE, donc,
c'est ça, oui.
qui nous disaient c'est pas normal d'être 30-35. Mm-hmm. Alors certains vont s'orienter vers le privé pour justement ne plus pour échapper à ça, mais c'est pas un recours légitime, c'est pas normal de se dire parce qu'on le voit dans le privé, des fois il y a 10 élèves de moins et on le sait que 10
c'est
élèves
pas
de moins
sûr, hein, que dans le privé c'est beaucoup
ça
moins
dépend, de... ça dépend des établissements privés, ouais,
oui ça dépend, non, mais je le vois avec ma fille parce que je suis concerné par ça. Mm-hmm. Et on voit les différences, mais je suis pas un pro école privée et je trouverais quand même assez réducteur de dire je fuis l'école publique parce qu'en fait la transmission elle est difficile parce que quand vous êtes 35, 32, 33, enfin j'ai vu des classes je crois à 35 ou 36, c'est énorme. Imaginez-le.
Oui, alors, là on parle de classes en lycée notamment.
Oui.
En collège par exemple, moi je suis dans un collège qui est censé être favorisé. Hein, c'est un collège de centre-ville de Marseille, petit, avec un assez faible effectif global, et on a des classes à 30 à tous les niveaux presque. Ce qui est le maximum théorique qu'on puisse nous donner.
Oui, oui.
Si on était dans un établissement moins favorisé, on aurait un maximum moins important. Mais voilà. Alors ça veut dire que du coup, nos élèves en difficulté, parce qu'on en a, sont un peu noyés dans la masse, et que par ailleurs, comme on est censé être favorisé, du coup on n'a pas vraiment de moyens supplémentaires à leur accorder. On n'a pas de possibilité de doubler les classes par exemple, ou très peu. On n'a pas de l'accompagnement personnalisé, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a de façon extrêmement réduite. Donc ils bénéficient peut-être d'une ambiance relativement positive globalement, et encore c'est souvent menacé, c'est pas acquis ouais. À l'avance, mais c'est pas des conditions de travail optimales. Donc oui, c'est des problèmes. Après, vous prenez en lycée, donc je suis pas en lycée, je suis en collège, mais la réforme qui a été faite pour le bac avec les enseignements de spécialité, etc., a conduit finalement à des classes de tronc commun extrêmement chargées à nouveau. Alors qu'avant, par exemple, lorsque vous avez, après la seconde, lorsque vous avez en première, vous avez une première S ou L ou ES, etc., bon, chacune de ces classes était généralement un peu moins chargée parce qu'en fait, tout le monde n'a pas forcément envie de faire L, tout le monde n'a pas envie de faire S, donc on arrive un petit peu à dispatcher les élèves. Là maintenant, en fait, ce qu'on fait, c'est que en enseignement de spécialité, si un élève fait par exemple une science en spécialité, bon, ils seront relativement peu nombreux parce que c'est spécialité et que tout le monde n'a pas prise. Mais par contre, du coup, on regagne de l'argent en les mettant tous ensemble sur le tronc commun. Et donc, sur le français, par exemple, ou sur l'histoire géo, là, par contre, ils vont être à bloc. Et là, on va se retrouver à nouveau avec des classes à 35-36. Et on se rend compte vraiment que en lycée, la réforme a été faite aussi pour économiser de l'argent. Il y a un choix qui a été fait par le gouvernement, hein, qui est de mettre le paquet sur le primaire. il y a de l'argent qui est investi, surtout dans le primaire.
Ça, c'est intéressant, avec par exemple la diminution de, justement des enfants dans les classes.
Oui, voilà,
ça, c'est très positif.
Le fait de diminuer effectivement, surtout dans l'éducation prioritaire, de diviser par deux le nombre d'élèves par classe, bon, effectivement, on ne peut pas aller contre ça, je suis d'accord.
C'est un peu comme la vaccination, c'est un public prioritaire, puisque c'est le démarrage est très important pour la suite.
À ce niveau-là, il y a une cohérence. Après, ce qui est dommage, c'est que comme c'est une réforme qui a été faite à moyen constant, ben, ce qu'on a mis d'un côté, on l'a enlevé de l'autre. Alors, on pourrait parler aussi de ces problèmes-là liés à la question du Covid, par exemple.
On y vient, justement.
Parce que la question des moyens humains se pose cruellement aujourd'hui.
Alors, décrivez-nous un petit peu vos ressentis, vos témoignages sur cette question-là. Il nous reste une douzaine de minutes.
Oui, ça va vite. Donc, je pense que les auditeurs ont une petite idée de comment ça se passe aujourd'hui. On a en fait un protocole sanitaire qui, sur le papier, est extrêmement contraignant, mais qu'en fait, avec la petite phrase magique à chaque fois, dans la mesure du possible.
C'est-à-dire que si on... Ça veut dire débrouillez-vous, quoi.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il faut aérer toutes les classes au maximum, dans la mesure du possible. Il faut mettre un mètre de distance, voire deux mètres maintenant entre les élèves, dans la mesure du possible. Et ainsi de suite. Je veux dire, il faut désinfecter tous les bureaux tous les jours, dans la mesure du possible. Donc, en fait, lorsque vous n'avez pas de personnel pour désinfecter, lorsque on se gèle dehors et que le chauffage ne marche pas bien, allez aérer. Lorsque vous avez 30 élèves dans une classe, allez mettre un mètre ou deux mètres de distance entre les élèves. Bon, et dans la mesure du possible, règle tous les problèmes. Donc, en gros, c'est chacun se bricole comme il peut.
Mais au final, c'est impossible.
Et au final, en fait, et ça va dépendre finalement beaucoup de la configuration d'établissement, du chef d'établissement lui-même, dans quelle mesure est-ce qu'il va être enclin à faire appliquer le protocole ou pas, dans quelle mesure est-ce que les collègues vont y adhérer ou pas. Bon, moi, pour vous dire clairement, à Chape, aujourd'hui, le protocole, c'est quoi? C'est qu'on met les masques en classe. Voilà, plus ou moins. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui faut rappeler régulièrement de le mettre correctement.
C'est juste
l'autre chose qu'on a faite, on a dissocié le moment de la récréation. Au lieu d'avoir un quart d'heure pour tout le monde, on a 10 minutes pour les 6e, 5e d'un côté, puis 10 minutes pour les 4e, 3e de l'autre. Et comme ça permet de répartir au maximum les élèves dans la récréation. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'au lieu de permettre uniquement aux élèves d'aller dans la cour, on leur a permis d'aller aussi dans les couloirs et dans les coursives au maximum, de se répartir au maximum, pour les espacer au maximum, pour éviter que se collent les uns aux autres.
Ah, mais ça, c'est comme vous l'avez dit, c'est propre à chaque configuration de.
Voilà, c'est ce qu'on a choisi de faire nous. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des élèves, du coup, qui sont un peu partout, et on n'a pas les moyens de les surveiller correctement. Et ça n'a pas causé de gros incidents au début, mais petit à petit, ça devient problématique. Certains élèves ont pris de mauvaises habitudes et on a eu plusieurs incidents récemment, des jets de projectiles depuis la cour du haut par exemple, qui ont touché des surveillants dedans, des personnes à l'extérieur. On a eu des actes de vandalisme sur les portes, ainsi de suite. C'est le fait d'un petit nombre d'élèves, mais comme c'est un petit nombre d'élèves qu'on n'arrive pas à surveiller efficacement parce qu'on n'a pas assez de gens pour le surveiller, et donc on se retrouve face à un vrai problème. Soit on les remet, on les recolle les uns aux autres, mais à ce moment-là, je veux dire, on oublie complètement le protocole sanitaire, soit on les répartit, mais à ce moment-là, il nous faut du monde pour les surveiller. Donc nous, on a fait un courrier dans ce sens à l'inspection académique, qui est parti récemment, pour lequel on attend un retour. On a mentionné dedans clairement les incidents qu'on a connus, qui sont parfois assez graves. On espère qu'on va avoir un retour et des moyens humains supplémentaires. Mais aujourd'hui...
Ça, c'est les contractuels, finalement. C'est ceux, justement, qui ne sont pas dans l'enseignement, dans l'éducation, c'est-à-dire qui ne sont pas titulaires. Et donc, tous ces contractuels qui œuvrent, justement, dans la surveillance,
alors, la surveillance
sont en difficulté.
Oui, la surveillance est gérée par ce qu'on appelle des AED aujourd'hui, d'assistants d'éducation, qui sont effectivement...
Sur les statuts
précaires. Ils sont embauchés à l'année, ou parfois sur des contrats de 1 an, 2 ans, 3 ans.
Moi, je l'ai fait à l'époque au collège Claire Soleil, quand j'étais étudiant à l'école de journalisme. J'étais pendant 1 an et demi... AED, donc je crois que c'était 700 ou 800 euros, enfin bref, à 20 heures là. D'ailleurs, j'en retire une super expérience, mais extrêmement difficile et on peut faire. C'est pas tenable, en tout cas, je veux dire, on peut pas œuvrer correctement.
Et alors, je disais tout à l'heure que les profs ont parfois du mal à se mettre en grève pour des raisons financières. Là, je voudrais saluer le courage des AED parce qu'ils sont eux-mêmes très mal payés ou très peu payés et ils ont été massivement en grève ces derniers temps.
Oui,
parce
on
que
les a reçus le mois dernier.
Ils sont vraiment au front. Je veux dire, ils sont vraiment en première ligne pour la gestion de ce genre de problème.
Oui, ils disaient que leurs tâches avaient été multipliées par 10 et qu'aujourd'hui, ils font absolument tout.
Ils ne peuvent pas l'effectuer correctement, de toute façon. Je veux dire, à un moment, vous ne pouvez pas surveiller les gens si vous n'avez pas des. Enfin, partout, si vous n'avez pas assez de monde.
Alors, concernant donc bientôt les vacances, là, bon,
oui.
Et bientôt la rentrée, et qui suit. Et donc, on parle de tests salivaires.
Oui, j'en ai entendu parler, effectivement.
Est-ce que ça, ça peut quand même aider
Oui, c'est,
oui, peut-être, parce qu'en fait, on a un problème de traçage aussi. C'est vrai que dans l'éducation nationale, on est finalement assez peu renseigné sur le degré exact de contamination. Il arrive parfois, nous on a eu récemment à Chape un professeur qui a été contaminé, du coup, des collègues à contact qui ont été mis en congé forcé jusqu'à être testés.
Là aussi, on a, monsieur Jean, une orchestration, en tout cas, qui est établie par les politiques, où évidemment, le cas contact est devenu quelque chose qui s'est extrêmement démocratisé, qui a parfois créé aussi un climat anxiogène et qui, au final, avec un protocole un peu plus souple, sans tomber dans le côté anxieux et angoissant, on aurait pu le faire avec souplesse. Je trouve que ça aussi, ça a été mal géré.
L'une des raisons pour laquelle nous, par exemple, on a eu beaucoup de cas de contact au collège, c'est parce que comme on ouvre la cantine davantage aux élèves, du coup, la salle qui était réservée aux professeurs a été attribuée aux élèves pour leur donner davantage d'espace. Du coup, tous les professeurs mangent ensemble dans la salle des profs, et donc on mange ensemble sans masque. Donc forcément, quand on a eu un contaminé, on a eu plusieurs cas de contact, oui.
Alors justement, c'est intéressant. J'en profite parce qu'on a des réactions et je salue les auditeurs et auditrices qui réagissent au 04 91 08 28 10, mais également par SMS. Et on me dit voilà que on a une ATSEM qui travaille, vous savez, les ATSEM sont appelés anciennement les tatas, qui œuvrent depuis des années à la
en
cantine
primaire, donc.
C'est un très gros problème aussi parce qu'on a aussi des problèmes avec ce protocole où des élèves de CM2 mangent à 14h30.
Oui, parce
donc
que
là
pour
aussi, c'est problématique.
Les échelons, c'est ça.
Oui, oui,
exactement,
c'est ça.
Et oui, par
pour
rapport au protocole.
Les élèves se collent les uns aux autres.
À Magali pour son SMS.
Oui, oui, c'est très bon. Oui, parce que justement, on en pourrait parler du primaire. Ils ont également un problème de personnel criant. On a eu quand même beaucoup aussi à Marseille récemment de grèves du personnel à TSEM, justement.
Oui, il n'y a pas longtemps d'ailleurs qu'il y a eu.
Et,
oui, oui.
En fait, et le fait est que de toute façon, dès que pour le coup les tatas, comme vous dites, se mettent en grève, qu'on ne peut plus nettoyer correctement l'établissement, on est obligé de fermer. Mais en même temps, elles subissent aussi une augmentation énorme de leur charge de travail parce que le travail de désinfection, de nettoyage est extrêmement important. Et nous aussi, c'est quelque chose qu'on a en collège.
Exactement. On rappelle qu'on est en direct sur les ondes du 88.4 Radio Galère, également audible sur le www.radiogalère.org. Merci pour vos appels et pour vos SMS. Il nous reste 7 minutes avec, je le rappelle, notre professeur du jour, le professeur Monsieur Jean, professeur d'anglais au collège Chape dans le 4e syndiqué au SNES. Voilà, il nous reste quelques minutes avec vous, professeur. On va évoquer notamment le moral des troupes. Il me semble que c'est quand même un élément qui est quand même accrocheur et pertinent. On aura l'occasion, j'en profite, la semaine prochaine, à la même heure que vous, monsieur Jean, on aura le plaisir de recevoir les représentants des étudiants. Et notamment un représentant.
Ils sont mal en point aussi.
Tout à fait, des bibliothèques universitaires. On va parler des universités d'Aix-Marseille, notamment avec Madame Klein, qui sera présente en tant que directrice adjointe. Et on va parler évidemment de précarité, d'enseignement, de problèmes qui sont extrêmement importants.
De détresse psychologique.
Tout à fait. Ça sera la semaine prochaine de 8h45 à 9h25. Et on parlera donc du moral des troupes. Comment se porte le moral des troupes et évidemment je mêle le corps enseignant et les élèves parce que vous êtes là pour transmettre du savoir. Malheureusement vous n'êtes pas aidé par les conditions, notamment de la crise sanitaire, mais pas que, parce que on dit aussi souvent, on a eu des professeurs régulièrement sur les ondes de Radio Galère qui nous disent mais la Covid a bon dos, les problèmes qui étaient préalables à la Covid n'ont pas été réglés. Et ils sont toujours d'actualité.
Je pense que le Covid a exacerbé des problèmes existants de toute façon. Et je pense que ça a mis particulièrement en valeur l'importance du facteur humain de façon générale dans la société. Parce que je pense qu'aujourd'hui on se rend compte à quel point pour certaines personnes ça peut manquer aujourd'hui le contact humain. Et nous, dans mon métier justement, où on est au cœur de ça, on est au cœur du contact humain, c'est particulièrement criant. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, par exemple, si on compare un petit peu la situation telle qu'elle est maintenant à ce qu'elle a pu être au retour du premier confinement dans les mois de mai et juin, avant les vacances 2020. À ce moment-là, on avait accepté l'idée que les élèves rentreraient pas en classe dans des conditions tout à fait normales, qu'on les a mis en demi-groupe. On a eu une rentrée qui était quelque part relativement, un retour en classe qui était assez positif finalement, parce que même si on voyait moins les élèves, on les voyait dans de très bonnes conditions. Et eux, en plus, étaient contents de revenir à l'école. Généralement, il y avait un vrai désir de retrouver le professeur. Et finalement, on a réussi à travailler, même en petits groupes, dans des conditions qui étaient assez favorables, qui faisaient que, même si on voyait moins les élèves, on avançait quand même aussi plus vite. Et on s'est rendu compte que, bon, le temps de travail, c'est bien, mais la qualité du travail investi, c'est important aussi.
Et alors maintenant,
parfois, et maintenant, ce qu'on a, au contraire, on se retrouve avec des classes à nouveau à 30, où tout ce qu'on demande aux élèves, c'est de mettre le masque.
Et pourquoi vous ne pouvez pas faire... ce que vous avez fait
mais moi je serais pas contre. Alors c'est vrai que
est-ce qu'on vous l'interdit?
Alors en fait c'est ce qui était fait en lycée. Mais de façon plus ou moins souple suivant les établissements. Et après, c'est vrai aussi que sur la durée, ça pose des problèmes parce que et souvent comment c'est géré. Nous l'année dernière, ce qu'on avait fait, c'est que les élèves venaient toujours en classe une demi-journée venaient toujours une demi-journée chaque jour. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient cours tous les jours. Ils venaient soit le matin, soit l'après-midi. Mais il y avait toujours ce rapport avec l'école
comme
qui était gardé.
Comme en Allemagne, par exemple.
Alors que dans certains établissements où, par exemple, on a fait une semaine, si l'élève est absent une semaine complète,
c'est trop.
Là, il y a un risque réel de décrochage. Donc je pense que le fait de garder une petite dose journalière est quand même important.
Alors est-ce que vous pensez que la Covid qui nous a empoisonné la vie à tous et qui fait ressortir beaucoup plus en lumière l'ensemble des difficultés, ça peut être aussi un moyen de mieux voir sur l'avenir et enfin d'avoir des modifications
il faudrait l'espérer, personnellement je souhaiterais, oui, je pense que ça pouvait remettre un petit peu l'humain au cœur des questions qu'on se pose dans la société et de l'importance effectivement du contact humain, du travail humain, de privilégier la qualité des rapports.
Ça peut être une chance cette mise en lumière de tas de problèmes qui sont pas évoqués spécialement aujourd'hui.
Comme beaucoup de situations de crise. Une crise, ça peut être une chance, ça peut être une opportunité pour déboucher sur quelque chose de nouveau et d'améliorer. Ça peut être aussi parfois quelque chose de très douloureux qui dure. Alors actuellement, on est plutôt dans la partie douloureuse de la crise. On peut espérer à long terme. Voilà. Après, on peut aussi avoir un repli sur soi. On peut aussi avoir. Il faut voir comment.
Je crois qu'il faut essayer d'en profiter. Quoi.
Mais on peut être positif. Hein, je suis d'accord. Moi,
c'est mon cas.
Vous avez raison. Ce que je constate au quotidien, c'est par exemple, moi, le masque, par exemple, en classe, même s'il est nécessaire, on est bien d'accord, mais aussi une barrière supplémentaire entre nous.
Pour le travail que vous entreprenez, et on espère vous revoir, si vous nous le permettez, peut-être à l'aube de l'été, au mois de mai-juin, avec peut-être de l'espoir, de pouvoir nous parler de vos horizons, des projets
bien
artistiques
volontiers.
Et de créativité. Merci beaucoup. L'émission touche à sa fin. Merci Christian, Richard, à tous nos invités.
Merci Anthony aussi.
À tous les auditeurs et auditrices. La semaine prochaine, on se retrouve à la même heure, 8h-10h, avec un dossier axé notamment sur l'université, les étudiants, les bibliothèques universitaires, la précarité, les bourses. Il y a beaucoup de choses
à
dire.
Et notre volet artistique, j'espère, Anthony.
Et on a un volet artistique, on attend des retours.
On attend des retours,
évidemment.
Mais ça sera une surprise.
Merci à toutes et à tous et restez fidèles au 80.4.
Merci, bonne journée.